Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
8h20, ce n'est pas la fin, ce n'est même pas le commencement de la fin, mais c'est peut-être la fin du commencement. C'est ce que Churchill disait en 1942. Cette phrase peut-elle aujourd'hui s'appliquer à Mossoul? On en parle avec Caroline Galacteros, qui est polémologue et également dirige le cabinet Planeting, un cabinet d'intelligence stratégique. En face de vous, Caroline Galacteros, Karim Pakzad, bonjour. Vous êtes chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'Afghanistan, de l'Iran et de l'Irak. Quel est votre sentiment sur ce qui est en train de se dérouler à Mossoul, Karim Pakzad?
Oui, vous avez, en citant Churchill, vous avez résumé vraiment la situation. C'est-à-dire on est enfin, après plus d'un an de préparation, au début de la fin de Daesh, au moins dans une première étape en Irak. Parce qu'il faudrait savoir que Daesh a déjà perdu beaucoup de villes qu'il avait conquises auparavant, comme Fallujah, comme Ramadi, comme Tikrit, etc. Et Mossoul, c'était la plus grande métropole irakienne qui était encore aux mains de Daesh.
Alors il faut peut-être rappeler que Mossoul, c'est une ville peuplée aujourd'hui d'un million d'habitants, avec donc un réseau serré urbain, avec donc l'obligation, si l'on souhaite prendre la ville, de mener une guerre urbaine.
Oui, d'abord, bon, c'est une grande ville, la deuxième ville irakienne qui était peuplée avant la prise par Daesh de 3 millions d'habitants. Donc, à peu près plus de moitié des habitants étaient déjà fui la ville. Et aujourd'hui, on estime à 1 million, 1,5 million des habitants qui sont encore dans la ville.
Qui est resté? Des gens qui ne pouvaient pas partir, qui ne voulaient pas partir.
Oui, ça c'est la particularité de Mossoul, ce que sépare Mossoul des autres villes irakiennes. Mossoul, c'est une ville par excellence arabe sunnite. Et l'importance de Mossoul pour les arabes sunnites est telle qu'elle considère comme leur capitale historique et culturelle. Et c'est vrai que sous le régime de Saddam Hussein, la plupart des officiers de l'armée irakienne et de hauts fonctionnaires, tout était originaire de Mossoul. Donc Mossoul, c'est la raison pour laquelle, lorsque Daesh en juin 2014 est arrivé à Mossoul, si les Yazidis, qui est d'origine kurde, les chrétiens, les chiites sont partis très vite parce qu'ils étaient visés par Daesh, c'était pas le cas de la totalité de la population arabe sunnite.
Et donc on a réservé plutôt un bon accueil à Daesh.
Voilà, c'est la raison pour laquelle une partie de la population, notamment les jeunes, on a accueilli avec la bienveillance Daesh. Parce qu'il faudrait savoir qu'à l'époque, l'Irak était dirigé par le premier ministre Nouri al-Maliki. Nouri al-Maliki était réputé par sa politique une politique autoritaire, notamment vis-à-vis des communautés et en particulier vis-à-vis des Arabes sunnites. Et donc, c'est sous Maliki que Daesh est apparu. C'est-à-dire que Daesh, acronyme de mot État islamique, était déjà implanté en Irak. En fait, lorsqu'ils sont revenus à Mossoul, ils sont revenus chez eux. C'est-à-dire, on a oublié un peu que Daesh, à l'origine, c'était la branche irakienne de Al-Qaïda, ensuite l'État islamique en Irak, et par la suite, avec la guerre en Syrie, il s'est transformé en État islamique en Irak et en Syrie. C'est la raison pour laquelle, voilà, l'implantation de Daesh en Irak, c'est beaucoup plus profonde, beaucoup plus enracinée.
Aujourd'hui, est-ce que Daesh bénéficie encore d'un soutien d'une partie de la population de Mossoul, Karim Pakzad?
On ne sait pas exactement, parce que quand même, avec la façon où Daesh ensuite a exercé, entre guillemets, son pouvoir à Mossoul, a suscité beaucoup de mécontentement. Parce qu'il faudrait savoir en même temps que Mossoul, c'était une ville par excellence laïque aussi dans le passé. le régime de Saddam Hussein, c'était un régime laïque. C'est la raison pour laquelle, voilà, une grande partie de la population, on peut dire, était très, très surprise par la façon où imposer un pouvoir extrêmement autoritaire, rétrograde, etc. Et voilà, beaucoup de témoignages. Par la suite, pardonnez-moi, une phrase, c'est la raison pour laquelle sous la reine de Daesh, il y a eu des immigrations, des fuites de la population de Mossoul.
Mais aujourd'hui, on estime à quelques milliers le nombre de soldats de l'État islamique présents à Mossoul, peut-être on dit entre 3 et 6 000, une ville d'un million d'habitants. Comment ces quelques milliers de soldats réussissent-ils à mettre en coupe réglée une ville ?
Voilà, il y a deux raisons. D'abord, Mossoul, c'est une ville, une grande ville. Donc, la reconquête d'une grande ville avec une organisation jusqu'au boutiste, avec une méthode de défense de ville extrêmement compliquée. Hein. Par exemple, tous les bâtiments sont minés, les voitures PG sont partout, les tranchées remplies de pétrole, etc., etc. Et surtout, avec des combattants qui sont prêts pour mourir. Ils ne défendent pas uniquement telle ou telle position, ils vont jusqu'à mourir. C'est la raison pour laquelle, voilà, tous ces éléments ont fait que, à mon avis, la reconquête de Mossoul sera beaucoup plus longue que celle de Fallujah, par exemple, au mois de juin.
Combien de temps ? Je sais que c'est une question difficile.
Personne ne peut dire, mais même les Américains ont dit plusieurs semaines. Lorsqu'on dit plusieurs semaines, et parfois certains généraux plus réalistes parlent de plusieurs mois.
Caroline Galacteros, aujourd'hui même, les ministres de la Défense vont parler de la suite donc des opérations, peut-être vers Raqqa.
Oui, mais moi je pense qu'effectivement il va y avoir une sorte de bascule de l'EI vers la Syrie. Et peut-être que ça ne va pas laisser la Russie totalement indifférente.
Pourquoi ? Expliquez-nous.
Eh bien, parce que vu que le jeu, de mon point de vue, est quand même et l'enjeu, c'est la relation russo-américaine, qui est aussi le verrou d'un éventuel apaisement ou d'une dégradation. La coalition occidentale cherche à faire passer une partie des troupes de l'EI de l'Irak vers la Syrie, je pense que la Russie peut avoir envie, dans l'autre sens, d'intervenir d'une manière ou d'une autre, pas forcément directement, mais peut-être via les chiites, en Irak. Donc il va y avoir, à mon avis, un échange, un échange qui peut être assez délétère, d'impact entre les deux pays, entre les deux grands. Je pense qu'il va y avoir aussi, surtout, une transformation subtile de l'image de Daesh.
Voilà. Karim Pazad, l'offensive contre Raqqa. Alors, Raqqa, c'est un autre lieu, c'est une ville beaucoup plus petite. Avec quelles possibilités pour reprendre la ville à l'État islamique ?
D'abord, il faudrait souligner que, contrairement à ce que la France estime, qui craignent, comme on vient de dire, le flux des combattants de Daesh et de l'Irak vers la Syrie. Moi, je pense au contraire. Je pense que Daesh sait que son sort se joue à Mossoul, pas à Raqqa.
Pourquoi ?
Raqqa, c'est une ville beaucoup facile à reprendre. Il y a énormément de forces, on vient de dire, les Syriens, les Russes, les Kurdes, les Arabes, les chrétiens syriens. Tous sont concentrés sur Raqqa, et Raqqa, c'est plus difficile à défendre que Mossoul. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on assiste à l'envoi des renforts des combattants de Daesh de Raqqa vers Mossoul. C'est la raison pour laquelle, si Mossoul tombe, à mon avis, la reprise de Raqqa sera beaucoup plus facile pour l'ensemble de coalitions, notamment pour les Syriens et pour les Russes qui les aident.
L'État islamique a également tenté de faire une diversion sur Kirkouk.
Ah oui, ça c'était pas seulement sur Kirkouk, ils ont fait des diversions également sur la ville de Sinjar. Évidemment, Vous savez, Daesh, ce n'est pas une organisation avec quelques militants, combattants, agités, sans connaissance de terrain. Daesh est, sur le plan militaire, est dirigé par des anciens officiers de l'armée de Saddam Hussein. Les officiers qui sont aguerris pendant la guerre en Irak et ensuite pendant les différentes offensives américaines en Irak. C'est la raison pour laquelle on voit une tactique militaire bien, bien précise, à savoir dans un tampon, si vous voulez, les troupes irakiennes avant d'arriver au Mossoul.
Mais justement, puisque ce sont des soldats de Saddam Hussein, on a du mal à comprendre pourquoi ces gens-là qui voient malgré tout que la bataille est aujourd'hui mal engagée pour eux, pourquoi ne négocient-ils pas un cessez-le-feu, une reddition ? Pourquoi n'essayent-ils pas d'obtenir en quelque sorte un accord politique avec les forces en présence ?
Sur quelle base avec Daesh un accord politique ? Il est impossible de...
Je parle de Daesh. Je veux dire, puisqu'on a affaire à des soldats, on peut imaginer que leur éthique de conviction, ce ne sont pas des militants au départ de l'islam radical. Ils étaient bassistes, ils étaient donc laïcs. Et donc, ils sont devenus, par le biais d'un certain nombre d'opportunités...
Je n'ai pas parlé de soldats, j'ai parlé des officiers de l'armée irakienne qui dirigent, si vous voulez, les opérations. Mais Daesh, en termes politiques et idéologiques, c'est une organisation à part. Ce n'est pas un État, ce n'est pas une organisation de type qui pourrait négocier. Et surtout, ni la Syrie, ni l'Irak, ni la coalition internationale ne négocient pas avec Daesh. L'objectif est de détruire Daesh aussi bien en Syrie ou en Irak, et comme le président François Hollande a dit, partout, c'est-à-dire en dehors de la Syrie et de l'Irak.
On écoute François Hollande.
Nous ne devons pas regarder Mossoul comme un point sur une carte, comme un objectif militaire à atteindre. Nous devons regarder Mossoul comme devant préparer l'Irak de demain. Et si nous infligeons à l'État islamique, à Daesh, une défaite, et si nous montrons que nous sommes capables de rassembler tous ceux qui ont vocation à se retrouver dans l'avenir de l'Irak, nous aurons non seulement gagné une bataille, mais je pense que nous aurons gagné la guerre.
La déclaration de François Hollande, j'ai l'impression que vous n'y croyez pas un instant, Caroline Gamet-Terros.
J'ai un peu de mal, oui. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je suis d'accord avec ce qu'a dit votre invité sur
Karine
beaucoup de
Pazan.
Choses. Oui, sauf peut-être sur... justement, moi je vois Daesh évoluer dans ses formes, et de toute façon la question sunnite reste un problème à régler pour la coalition internationale.
C'est-à-dire évoluer, parce que nous on voit pas beaucoup d'évolution.
C'est-à-dire que là pour l'instant Daesh c'est quelque chose de spectaculaire, c'est un repoussoir, c'est aussi un bouc émissaire de beaucoup de choses par rapport à d'autres groupes.
Je rappelle que le bouc émissaire est innocent, mais...
Oui, mais non, mais c'est-à-dire que c'est le point de cristallisation de toute l'indignation occidentale concernant les questions terroristes. Or, c'est bien plus compliqué que ça. On a voulu déstabiliser les grands États laïcs dont vous parliez tout à l'heure, que ce soit la Syrie, l'Irak, la Libye. On a tout essayé. On n'y est pas arrivé. Daesh est aujourd'hui le point qui reste encore apparent de tout cela, et ça rend respectable par contraste tout un tas d'autres gens avec lesquels il va falloir...
C'est-à-dire qu'une partie d'Al-Qaïda est devenue synonyme en quelque sorte d'organisation modérée. C'est d'ailleurs ce qui se passe à Alep. Je ne parle pas évidemment d'Alep contrôlée par le régime, mais d'Alep, la partie contrôlée par les rebelles, c'est en réalité une partie...
Al-Qaïda.
Et donc, par conséquent, ils sont aussi dangereux que Daesh, selon vous ?
Ah, mais bien sûr, de toute façon. Et là, j'aurais peut-être une petite divergence. Je pense que, naturellement, comme dans tout conflit, on parle avec, et on doit s'intéresser à parler avec tout le monde, y compris avec l'ennemi officiel, entendu, voilà. Bien sûr, il faut parler, et toute la question, ça va être les contreparties que l'on va laisser, que l'on va donner, d'une manière ou d'une autre, offrir, pour que Daesh, peut-être, quitte l'Irak et aille où ? Donc la question du Sunnistan est très importante.
Mais le Sunnistan, vous le verriez où ?
Mais le Sunnistan, c'est cette espèce de projet américain d'avoir une zone à la fois en Irak et en Syrie où l'on puisse confier, donner au contrôle des populations sunnites.
Karim voilà. Pazad.
Oui, je suis d'accord sur un point, à savoir qu'il n'y a pas de véritablement de distinction entre Al-Qaïda et Daesh. La divergence est portée uniquement sur le fait que M. al-Baghdadi a proclamé le califat, alors qu'Al-Zawahiri, le chef actuel de Al-Qaïda, était opposé à la proclamation de Al-Qaïda. Mais c'est tout. C'est la raison pour laquelle ce que vous avez souligné un point extrêmement important sur Alep, à savoir les organisations qui aujourd'hui, on les considère comme l'opposition. Mais alors que c'est vrai qu'il existe à Alep des petites organisations de type moins djihadistes que les autres, mais l'organisation qui domine à Alep, on l'appelle aujourd'hui Fath al-Sham, mais Fath al-Sham, ce n'est que Al-Nusra, et Al-Nusra, ce n'est qu'Al-Qaïda. Et c'est les Qataris qui ont poussé Al-Nusra de changer de nom pour être présentable. Mais sur le plan de, il y a une chose qui est vraiment importante. Moi, je pense qu'on regarde Daesh comme avec une analyse classique des affrontements entre deux parties. Non, l'objectif, moi, je pense, l'objectif, que je suis d'accord avec cet objectif, à savoir, il faudrait vraiment éliminer, détruire Daesh. Mais même si on détruit Daesh, en Irak et en Syrie, cela ne veut pas dire qu'on a détruit Daesh partout. Si on n'a pas le temps de dire que Daesh commande aujourd'hui, s'est implanté non seulement au Proche-Orient, mais aussi au Pakistan, en Afghanistan, en Asie centrale. C'est la raison pour laquelle c'est une menace planétaire. Il faudrait vraiment le détruire.
Mais détruire Daesh, qu'est-ce que ça signifie? Il y a aujourd'hui 30 000 hommes qui représentent l'armée de Daesh. Que va-t-il advenir de ces 30 000 hommes? Pensez-vous en quelque sorte qu'une partie d'entre eux puisse revenir à la vie civile, ai-je envie de dire? Pensez-vous qu'il soit possible de reprendre ces soldats qui, pour un certain nombre d'entre eux, on parle de 300 Français à Mossoul, se sont radicalisés? Que vont-ils devenir, Karim Pazad?
Oui, mais il faudrait pas oublier que plusieurs centaines des Français sont revenus déçus de Daesh. C'est la raison pour laquelle on peut dire que sur 30 000 que vous voyez avancer, ces 30 000 ne sont pas tous des combattants convaincus, prêts à mourir jusqu'au boutisme. C'est la raison pour laquelle l'important, c'est vraiment ce noyau dur de Daesh qu'on estime au maximum à 10 000 personnes. Mais vous savez...
Alors ces 10 000 personnes, qu'est-ce que vous en faites?
Oui, mais il faudrait... Ce sont des combattants qui sont prêts à mourir. Ils vont pas négocier. Ils sont prêts à mourir parce que c'est leur conviction religieuse, c'est mourir pour l'islam. Et c'est la raison pour laquelle je dis qu'on ne peut pas analyser cette relation avec une analyse classique. Il faut détruire Daesh dans le noyau de Daesh en Syrie, en Irak.
Caroline Galacteros.
D'accord avec l'objectif. Maintenant, comme l'a très bien dit votre invité, il faut peut-être, ils ont des chefs laïcs. Ils ont des chefs, notamment militaires, qui sont des anciens, effectivement, de l'armée de Saddam Hussein.
Oui, c'est la question que je posais tout à l'heure.
Les interlocuteurs existent. Après, qu'adviendra-t-il des troupes de Daesh?
Mais ils ont un numéro de téléphone, comme le disait Kissinger?
Je ne sais pas.
Il y a déjà des désertions, attends. Il y a déjà des désertions au sein de Daesh.
Évidemment.
On n'en parle pas de ça. Moi, je pense que cette guerre provoquera également des désertions dans les rangs de Daesh, du conflit à l'intérieur de Daesh.
Et aussi,
il restera le noyau dur à détruire.
Et aussi beaucoup de recyclage. Maintenant, il est très difficile d'imaginer détruire un noyau dur quand la coalition qui est en charge officiellement de le détruire est composée du Qatar, de l'Arabie Saoudite, d'un certain nombre de monarchies arabes sunnites qui les ont évidemment soutenus.
Oui. Qui peut-être aujourd'hui...
C'est la carpe et le lapin, cette alliance, si vous voulez. Donc il faut... C'est vraiment...
C'est-à-dire que pour vous, l'Arabie Saoudite, par exemple, n'est pas sortie de ses ambiguïtés?
Non, bien sûr que non. C'est structurel, c'est essentiel. Donc nous essayons de faire quelque chose de compliqué.
Un mot de conclusion, Karim Pazad.
Oui, conclusion, je suis d'accord avec cette analyse. L'une des difficultés pour combattre Daesh, c'est l'incohérence de cette coalition qui existe. Cette coalition, comme on vient de dire, est composée vraiment des éléments, des États qui ont soutenu Daesh et des États comme la Turquie qui ont des objectifs tout à fait différents des objectifs, par exemple, des Américains, des Irakiens, des Syriens ou des Français.